Première invitée donc de ces matins du samedi, une femme qui est tout à la fois auteure, metteur en scène, directrice de théâtre, costumière, décoratrice, scénographe, plasticienne et bien d'autres choses encore. Par exemple, elle est la mère des Deschiens qui ont fait les grandes heures de Canal+. On lui doit aussi, avec son compagnon Jérôme Deschamps, un certain nombre de spectacles, tantôt écrits par eux, tantôt adaptés de grands classiques, tantôt pour le théâtre, tantôt pour l'opéra. Sa rencontre avec Antoine Vitesse fut déterminante pour sa carrière théâtrale et les films de Jacques Tati impriment l'ensemble de son œuvre. Avant de partir pour Avignon cet été, monter un Lewis versus Alice, elle reprend à Paris l'avant-dernière œuvre de Molière qu'elle a montée en 2015 chez elle et elle a connu un grand succès. Ce titre Trissotin ou les femmes savantes est donc repris aujourd'hui à la Scala à Paris. Cher Masha Makaïev, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
J'aimerais qu'on commence par des voix. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on commence par des voix?
Oui, surtout à la radio, c'est un bonheur de transporter cet affect-là. Et j'aime beaucoup, dans la nuit, alors c'est pas encore le jour tout à fait.
Pas tout à fait, presque.
Et j'aime beaucoup ce moment-là, oui, les voix. Il y a une présence-absence qui est admirable. Je sais pas celle que vous avez choisie, mais je m'attends au choc émotionnel.
On va voir. Première voix, donc.
Oui, mais Lucien, est-ce que savoir rien foutre, ça suffit comme but dans la vie?
Pas toujours, hein.
Est-ce que ça suffit à nous excuser?
Si vous deviez vous ramasser d'un seul mot, vous définir d'un seul mot, quel est le mot que vous choisiriez?
J'ai l'impression que je suis un traînard, moi, un peu.
Un traînard?
Oui, un mec qui traîne.
Attendez.
Qui se balade, qui traîne, qui regarde comme ça. C'est ce que j'aime le plus dans la vie, ça. Traîner.
Zana Kotnitch.
Elvis Presley.
Enchanté. J'étais assistante vétérinaire.
Ouais, ça tombe bien, je suis un cochon.
Moi j'aime bien quand les gens sur qui on ne s'y attend pas, tout d'un coup, se débrouillent un peu dans la vie. Moi j'aime bien ça. Moi j'ai toujours adoré les cancres.
Vous étiez un cancre?
Ah oui. Et je le revendique.
Oui. Je suis Jean-Pierre Marielle.
Oui.
L'acteur.
Oui, je vois.
Voilà.
Bon.
C'est tout.
Voilà, Masha Makaïev, évidemment, hommage à Jean-Pierre Marielle dont on a appris la mort cette semaine. Ce petit montage réalisé par les soins de Jean-Christophe Francis. Un choc émotionnel, alors?
Oui, toujours.
C'est une voix, hein, oui, Jean-Pierre Marielle.
C'est toujours.
Avant d'être un traînard.
Oui, les acteurs, c'est une époque, c'est aussi une façon d'être un homme assez particulière qui disparaît peu à peu au profit d'autre chose. À la fois un peu, je vais faire ma fille la main, un peu exaspérante et extrêmement attachante. Ces hommes-là, oui, bien sûr. Et une façon d'être un acteur aussi, avec ce fond d'humour et de distance et de surtout jamais aucun esprit de sérieux. Rien que pour ça, je n'en serais éternellement reconnaissante.
Alors, une deuxième voix maintenant.
Anne-Marie me dit que sur notre... Si on gardait une tombe, ce qu'on ne fera pas, et qu'on devait écrire un texte éternel, où on met une phrase connue ou comme ça, sur ma tombe, on mettrait au contraire, et sur la tombe d'Anne-Marie, elle mettrait « J'ai des doutes ».
Vous l'avez reconnu, Masha Makaïev?
Ah oui.
Voix reconnaissable entre toutes.
Oui, oui, vraiment, ça c'est...
Jean-Luc Godard,
immense, immense dans nos vies, enfin, ma génération notamment, c'est quelqu'un qui nous a toujours montré un chemin, et même si on s'y précipitait pas tout le temps, même si on était extrêmement mordant, critique, celui-là, on l'aura aimé vraiment, et c'est fou quand les êtres se fragilisent, même s'ils gardent absolument l'intensité d'intelligence, de son intelligence est toujours extrêmement précise. La fragilisation du corps, de la voix, tout d'un coup, montre l'attachement qu'on a aux êtres. Et lui, c'est vraiment un repère. Lui et le cinéma, pour moi, c'est un peu la même chose. Même si, quelquefois, il était, pour moi, dans l'appréhension du monde un peu en dehors des clous, il y a dans ce qu'il aura rêvé du monde, et l'aspect littéraire aussi du cinéma, et ce discours sur le cinéma, quelque chose d'irremplaçable. Voilà, moi j'ai... On peut pas dire qu'on peut avoir de la tendresse pour Jean-Luc Godard, parce qu'il détesterait ça. Mais j'ai une immense admiration, vraiment, définitive.
Et cette voix est d'autant plus forte qu'elle se fait très rare. Elle a été entendue très récemment sur cette chaîne, au micro d'Olivia Gesbert, dans La Grande Table, qui est allée à sa rencontre en Suisse, une émission
qui a été
diffusée le 15 avril dernier, qu'on peut bien entendu réécouter sur le site de France Culture. Arte a diffusé mercredi soir son dernier film, le livre d'images. Quand il dit sur ma tombe, je mettrais au contraire et Anne-Marie, ce serait plutôt Anne-Marie, donc la compagne de Jean-Luc Godard, ce serait plutôt j'ai des doutes. Vous êtes dans de quel côté, peut-être un troisième d'ailleurs, Macha Makeyev, plutôt du côté du contraire ou plutôt du côté
J'aime bien l'idée du doute, c'est vrai, mais je pense immédiatement comme à l'épitaphe de la mère de Sophie Calle, qui est une des plus admirables, qui est je m'ennuie déjà. Je pense que c'est... L'épitaphe, c'est assez intéressant, cette espèce de raccourci de la frustration que serait l'absence d'action. L'idée que le repos est une chose insoutenable me plaît assez. Voilà, mais le doute, oui, moi je serais plutôt du côté du doute, mais au contraire, c'est bien... D'ailleurs, dans la revue que je vous ai apportée, la première page, c'est pour ou contre. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup pour ou contre en même temps. Enfin, il y a quelque chose de l'inconfort de cette proposition et la jubilation du débat. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de savoir se parler, savoir débattre, accepter que l'autre n'est pas absolument au même endroit que soi-même.
Alors cette revue dont c'est le numéro 1, c'est la nouvelle revue du Théâtre National de Marseille, La Criée, que vous dirigez.
Oui,
on y reviendra tout à l'heure, Macha Makeyev. Mais avant, j'aimerais qu'on s'arrête sur d'autres voix encore, celles qu'on entend en ce moment à la Scala, celles avec lesquelles on ne s'ennuie pas une seconde, les voix de votre nouvelle mise en scène, donc Trissotin ou les femmes savantes.
Quoi ? Le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur. Et de vous marier, vous osez faire fête. Ce vulgaire dessein vous peut monter en tête.
Oui, ma sœur.
Oh, ce oui se peut-il supporter? Et sans un mal de cœur, saurait-on l'écouter?
Qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige, ma sœur?
Oh, mon Dieu. Fille.
Comment?
Ah, fille, vous dis-je. Ne concevez-vous point ce que... Dès qu'on l'entend, un tel mot à l'esprit offre de dégoûtant. De quelle étrange image on est par lui blessé. Sur quelle sale vue il traîne la pensée. N'en frissonnez-vous point? Et pouvez-vous, ma sœur, aux suites de ce mot résoudre votre cœur?
Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage. Et je ne vois rien là, si j'en puis raisonner, qui blesse la pensée et fasse frissonner.
De tels attachements au ciel sont pour vous plaire?
Et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire que d'attacher à soi, par le titre d'époux, un homme qui vous aime et soit aimé de vous? Et de cette union de tendresse suivie, se faire les douceurs d'une innocente vie? Ce nœud bien assorti n'a-t-il pas des appâts?
Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas.
Voilà le dialogue entre les deux sœurs, Armande, jouée par Caroline Espargilière, et Henriette, jouée par Vanessa Fonte, qui ouvre donc Trissotin ou les femmes savantes. Macha Makeyev, Trissotin ou les femmes savantes, c'est donc l'avant-dernière œuvre de Molière. Mm-hmm. Elle a été écrite en 1672, 2 ans avant sa mort. C'est d'abord, et on l'entend là, une langue. C'est d'abord des alexandrins qu'il faut faire revivre en 2019, même si vous l'avez écrit en 2015.
Oui, c'est d'abord ça. C'est d'abord le travail, le respect d'une langue poétique, après tout. Parce que l'alexandrin, c'est un caractère universel aussi. Il se détache de toute époque, même s'il est écrit à une époque très précise. Et c'est c'est une comédie sur le beau langage. Donc déjà, c'est une langue admirable. Molière est au sommet de son art, en même temps aussi au sommet de sa solitude. On sent bien son amertume et on sent bien... Combien il est privé d'amis au fond, et qui peut-être il aime ça aussi parce que ça lui permet un regard sur le monde très très singulier. Et Les alexandrins, c'est les voix aussi. C'est un rythme, c'est une prosodie, c'est le respect d'une certaine langue. Le faire entendre a demandé beaucoup de travail parce que si on le dit mal, la syntaxe nous échappe et on comprend rien. Donc on a travaillé avec Valérie Besançon vraiment sur la structure et pour que les acteurs soient absolument dégagés de ce souci-là au profit du jeu. Et puis aussi parce que dans cette pièce, et souvent chez Molière, on n'en reste pas au discours. Le personnage ne se résume pas à ce qu'il dit, au discours qu'il tient. Il est bien au-delà, il y a une ambivalence de chaque personnage. Évidemment qu'il se place dans un certain discours, j'allais dire presque idéologique. Il veut cette place-là avec les mots. Et pourtant, on a le sentiment toujours que c'est ailleurs que se joue sa vie. Notamment, là on entend deux sœurs, alors on pourrait en faire deux petites gourdes, l'une est pour le mariage, l'autre est contraire pour les choses de l'esprit, une pour le corps, l'autre, enfin voilà. Elles s'opposent, mais ce qui m'a intéressée, c'est évidemment la situation d'absolue cruauté, parce que ces deux très jeunes sœurs aiment le même homme, ou du moins désirent le même homme, sans, même quelquefois sans le savoir. Armande ne le savait pas qu'elle le désirait autant, et donc Lysandre est là, il dort dans un fauteuil, et il y a ce corps de cet homme, le corps d'un homme entre les deux sœurs. Et c'est cette incarnation qui m'a aussi intéressée de faire voir et de faire entendre à côté de cette langue admirable.
Oui, puisque vous jouez vous oscillez en permanence et grâce à la langue de Molière entre le beau langage, les beaux discours et la très forte sensualité, les corps qui s'expriment sur scène, on est quand même au théâtre. Mais puisqu'on a commencé cet entretien, Masha Makeyev, avec les voix, je voudrais qu'on continue avec les voix et une voix surprise peut-être, puisque la pièce, en l'occurrence votre mise en scène, Les Femmes Savantes, c'est cette première scène dont on a entendu un extrait tout à l'heure, a inspiré un livre très récent, un livre de neurologie, figurez-vous. Lionel Nakache, qui est professeur de neurologie, a vu votre mise en scène et il en a fait un livre sur la connaissance et la sexualité comme deux sœurs jumelles. Son livre s'appelle « Nous sommes tous des femmes savantes », il vient de paraître chez Odile Jacob. Écoutez ce qu'il dit de ces deux sœurs jumelles.
Alors on peut le dire de la façon la plus simple d'après moi, c'est qu'en réalité ce sont deux catégories d'expériences de notre vie qui sont essentielles pour nous, même à nos propres yeux, pour nous définir. Et elles partagent quelque chose d'absolument dingue, c'est qu'en fait on est quoi? On est une sorte d'individu qui se promène avec notre système, notre caméra subjective, notre façon de voir le monde et de nous voir nous-mêmes, nos croyances, nos interprétations, ce qu'on pense de nous, etc. Et ça on peut le décrire rapidement comme étant notre subjectivité, quoi. On se promène et puis parfois on rencontre des informations. Et ça va donner lieu à des expériences de connaissance. Et la rencontre avec cette information va entraîner une transformation du système subjectif. Vous n'êtes plus vraiment le même après cette rencontre. Et ça, c'est le pouvoir de transformation de la connaissance. Et cette même opération opère également par la sexualité. Mais cette fois-ci, ce n'est pas strictement en rencontrant une information, mais en rencontrant un corps sexué. Vous allez vivre une expérience en vous ouvrant à cet autre corps qui va aussi vous transformer.
On peut aussi faire cette lecture des femmes savantes, mais à partir des femmes savantes.
Mais je l'ai rencontré, Lionel Nakache, effectivement. C'est extrêmement stimulant ce qu'il dit. Et on était assez on s'est bien rencontrés. Lui, il théorise beaucoup. Nous, au théâtre, on est plus pragmatique, on est plus sensitif, comme ça. Mais c'était très intéressant. Moi, ce qui m'a plu aussi d'échanger avec lui, pour répondre à son approche, et que je trouve dans la pièce, c'est l'effroi masculin devant l'illimité féminin. Alors, ça peut être évidemment l'illimité du désir. Les hommes se demandent toujours jusqu'où va notre et nos vont nos plaisirs. Mais quand il s'agit là de la connaissance, Philamate s'empare de toutes les connaissances. Le rapprochement que je trouve plein d'humour et de vitalité chez Molière entre ce rapprochement-là entre la sexualité et le savoir. Je suis absolument d'accord avec lui. On parle de savoir, mais c'est peut-être l'illimité du désir féminin qui met les hommes de cette maison dans un tel désarroi.
Oui, parce que vous disiez c'est une comédie sur le beau langage, mais en fait c'est quand même l'histoire d'une maison qui devient folle. Hein. Les femmes, enfin certaines d'entre elles, trois disons, fameuses femmes savantes, veulent s'émanciper, mais elles font un peu n'importe quoi et elles se pâment devant n'importe quel beau mot. Les hommes sont souvent pleutres ou manipulateurs. D'ailleurs, est-ce que c'est une tragédie ou une comédie réellement?
Chez Molière, de toute façon est dans la comédie. La grande comédie ne s'éloigne jamais du précipice. Sinon, c'est pas intéressant. Sinon, c'est amusant, en plus. Là, non, il est question effectivement d'une famille chauffée à blanc qui vrille, d'un système bourgeois qui est remis en cause, mais qui va se rétablir parce que il est là pour encore un moment. Mais il y a surtout de grandes figures féminines. On a cité Philaminte, Armande et Henriette, mais il y a aussi Martine.
Martine, qui est la bonne.
Oui, qui est la cuisinière. Et comme par hasard, ça a à voir avec la nourriture, ça a à voir avec le corps, cette guenille dit chrysale, c'est-à-dire après tout, quand les hommes de la maison voient s'éloigner le rituel du repas et de la nourriture, c'est panique à bord. Mais cette figure, c'est aussi le point de vue social de Molière, c'est-à-dire que cette jeune cuisinière, elle est éjectée elle est à peine entrée en scène qu'elle est éjectée par la maîtresse de maison qui trouve que vraiment elle s'exprime vraiment trop mal. Elle ne maîtrise absolument pas le français, donc elle a rien à faire dans cette maison. Et moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de montrer comment un espace domestique dans une maison bourgeoise va se transformer au profit d'autre chose. Et ce que vous dites, c'est quelque chose de l'ordre de la panique. Et puis la figure des deux sœurs est vraiment passionnante parce que ce soit Henriette, que ce soit Armande qui finit par être sacrifiée quand même. Henriette, j'aime aussi beaucoup la cadette parce que elle veut quitter la nef des fous, elle veut quitter cette maison qui va mal, où elle se sent très mal. Et la seule chose qu'elle trouve, et ça a été longtemps le cas, c'est le mariage. Donc un homme passe, bon, il se trouve que c'est celui qui soupire pour sa sœur. Bon, mais c'est le seul qui soit disponible. Eh bien, elle le prendra pour pouvoir partir. Le mariage comme émancipation, ça a été une des impasses de l'émancipation féminine, le mariage.
Mais cette pièce a longtemps été considérée comme misogyne. Pour quelle raison ?
Parce qu'elle... Alors là, c'est une erreur de... Vraiment une erreur d'approche, une erreur d'écoute. Il y a trois discours misogynes dans la pièce qui se font entendre, un tenu par le jeune homme Clitandre, un par un homme mûr et qui est le maître de maison Chrysale, et le troisième, admirable malice de Molière, il est dans la bouche de la jeune cuisinière
de Martine
qui se venge, et d'une façon admirable parce qu'elle... Là, elle fait plus aucune faute de syntaxe. Et elle inverse le discours féministe et d'émancipation de Philaminte pour se venger de cette femme. Et Molière sait très bien quelle violence nous est faite quand le discours misogyne est tenu par une femme. Ça, là, nous autres, ça nous met dans un drôle d'état. Et d'ailleurs, dans la salle, ça met dans un drôle d'état. Et c'est là où on vérifie le génie du dramaturge quand même, qui est de ne pas nous donner des réponses, mais de nous dire toute l'ambivalence de nos pensées, de notre façon d'approcher les grands sujets.
Alors cette pièce est remontée aujourd'hui, elle est à la Scala à Paris, mais elle a largement tourné, vous êtes même revenu d'une tournée
en Chine. Un très beau théâtre qui vient de naître, il faut souligner ça, parce que c'est si rare à Paris qu'un théâtre se mette à exister. Et là il a été dessiné par Richard Peduzzi, donc aussi un grand artiste qui a donné une élégance à ce lieu, et le rapport scène-salle en ce qui nous concerne est vraiment formidable, les acteurs ont beaucoup de plaisir à jouer dans ce théâtre.
Et donc vous revenez d'une tournée en Chine l'année dernière.
Oui.
Comment s'est passée cette tournée en Chine ? Comment Molière a-t-il été reçu en Chine ? Apprécié ?
Alors écoutez, moi j'avais dit aux acteurs, on ne sait pas, moi je ne connais pas, j'étais allée en Chine, mais je n'avais jamais joué en Chine. Je leur ai dit, écoutez, on prend ça comme une expérience. On a joué dans des théâtres énormes, 1400, 2000 places, avec des surtitres considérables sur chaque mur en rouge. Et on se disait, mais qu'est-ce qui va advenir de nous et de notre texte ? Et ça a été formidable. D'abord, on l'a bien préparé aussi avec l'Institut français. On a fait beaucoup de rencontres. C'était l'année de la femme et l'émancipation féminine est un grand sujet. Et la famille qui vrille est un grand sujet pour les Chinois. Et Molière a été accueilli admirablement. Et voilà, on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer dans ces publics-là.
Notre invitée ce matin est metteur en scène et directrice de théâtre, c'est Masha Makeyev. On parlait des voix, voilà encore des voix. Hein. Alors Malraux, De Gaulle, Robert Renucci, Gérard Desartes, que peut le théâtre? C'est un peu la question que j'avais envie de vous poser, même si c'est une question océanique. Mais ce que dit le théâtre aujourd'hui, puisque on voit poindre un certain nombre de débats qui ont trait d'ailleurs au théâtre, des pièces de théâtre ces derniers temps comme Kanata de Robert Lepage au Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine ou Les Suppliantes d'Eschyle mise en scène par Philippe Brunet à la Sorbonne ont posé problème, certaines ont été empêchées comme Les Suppliantes, d'autres ont fait controverse comme Kanata. Vous n'avez pas signé il me semble en tout cas, Masha Makeyev, je n'ai pas vu votre nom, dans la pétition qui a paru dans Le Monde et qui a été justement signée par Ariane Mnouchkine et un certain nombre de personnalités dont beaucoup de personnalités du théâtre. Pour quelles raisons? Est-ce que ces débats-là ne vous intéressent pas? Est-ce que c'est spécifiquement sur la question de la censure au théâtre ou des Suppliantes d'Eschyle ou... Pour quelles raisons?
Non, le sujet m'intéresse énormément, bien sûr, mais c'est pas par là, c'est pas comme ça que je l'attraperai. Probablement parce que je suis née à Marseille, mais comment vous dire considérer quelqu'un par sa couleur, commencer par un tri de l'humanité, quel qu'il soit, me rebute absolument et je me l'interdis. Et c'est quand je suis arrivée à 18 ans à Paris, que je quittais Marseille, que la notion de diversité, j'ai découvert, parce que c'est tellement notre paysage quand on est né dans une ville comme ça, que je me suis fait à un moment donné violence pour là aussi faire un peu comme les autres et dire voilà, alors il y a tant de noirs sur la scène, il y a tant de gens d'origine arabe ou d'origine ceci ou d'origine cela, et j'ai bien senti que j'allais contre quelque chose qui m'était vraiment pas du tout, enfin qui m'était hostile. Au fond, je refuse philosophiquement ça. Alors évidemment, je sais bien que ce sont de très belles intentions que de dire qu'il faut que nos scènes soient représentatives de la population française, bien sûr. C'est quand même la moindre des choses et nous devons y penser. Mais commencer par ça et attraper l'humanité par une arithmétique ne me satisfait pas. Et puis moi, je ne fais pas la différence quand je marche dans les rues de Marseille. Je ne me dis pas, tiens, j'ai rencontré trois personnes asiatiques, deux personnes. Je trouve, d'une certaine façon, même si c'est vraiment pour des raisons honorables au départ, je pense que ça se retourne. Et puis, je me mets toujours à la place, pour y avoir un peu été, à la place de celui ou de celle qui est considéré comme faisant partie... d'une ethnie, pourquoi est-ce qu'on désigne l'autre comme ça? L'autre, il doit rester dans la plus large universalité. Voilà. Donc, je n'ai plus envie de désigner l'autre par la couleur de sa peau, par l'autre, c'est encore plus grand et plus précieux que ça.
Comment se porte la Criée à Marseille, puisque vous parlez de Marseille? Il y a une nouvelle revue. Déjà?
Oui, la Criée va bien, j'ai des équipes absolument formidables. C'est une ville qui a un tel potentiel qu'on a toujours l'impression de ne pas faire assez, mais ce que l'on donne, est tellement lisible, c'est un échange tellement puissant. Là, en ce moment, on a Saïgon et les salles sont pleines et on a à nouveau où désormais il y a aussi beaucoup d'art plastique représenté, les artistes de la scène peuvent déborder. Donc c'est une entreprise qui me tient tellement à cœur, qui construit ma vie maintenant depuis 7 ans, mais qui est intrinsèquement liée le projet artistique est intrinsèquement lié à cette ville, à sa sociologie, à sa façon de ressentir les bruits du monde.
Masha Makayev, juste une dernière question avant qu'on entende votre choix musical. Ces débats qui ont trait justement au théâtre et qui sont si puissants au théâtre ont peut-être pour point commun le fait de confondre parfois la réalité et la représentation. Le théâtre, c'est l'art de l'imagination, c'est le miroir de la réalité, d'où cette difficulté à le représenter. Vous serez cet été à Avignon avec Lewis Carroll, maître de l'imagination, la représentation et du miroir. Lewis Carroll et Rosemary Stanley, juste un mot sur ce spectacle.
Alors Lewis Carroll, c'est Lewis versus Alice, et au fond c'est s'emparer plutôt de l'univers d'une personnalité plutôt et de savoir ce qui se passe entre l'auteur et sa créature, et en fait est-ce que peut-être faire la démonstration que c'est une seule et même chose, et puis faire l'éloge de l'excentricité.
Ah bah ça, c'est ce qui vous...
Essentiel.
C'est ce qui
essentiel
vous définit peut-être aussi, en un mot, l'excentricité. On va terminer donc avec votre choix musical. Vous avez choisi une version remasterisée en 2009 d'une chanson qui date un peu, mais qu'on ne se lasse pas d'écouter, les Beatles.
Oui, parce que c'est mon fils Félix qui m'a fait entendre cette version-là. Moi, je connaissais l'ancienne. Et j'aime beaucoup ces territoires où... De génération en génération, on se retrouve dans une même écoute.
The Foot on the Hill. Perfectly still, but nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning. On l'écoutera en entier chez soi, hein. C'est beaucoup trop court. Merci beaucoup à vous, Masha Makayev. Trisotin ou les femmes savantes, c'est à la Scala à Paris jusqu'au 10 mai, avant de vous rejoindre à Avignon pour Merci Lewis beaucoup. Versus Alice. Merci à vous. Il est 7h40 sur France Culture. On se quitte avec les Beatles pour aller vers la fabrique médiatique. Nos deux invités sont déjà installés.